De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition.
À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Irène Théry. Ce soir, les noces de la sociologie avec l'histoire et l'anthropologie.
Irène Théry, bonjour.
Bonjour.
Donc nous reprenons notre conversation. Nous sommes quittés hier sur cette lecture décisive de Stanley Cavell qui éclaire rétrospectivement votre travail sur le démariage, objet de ce premier grand livre, et notamment aussi sur la métaphore proustienne qui donne à votre travail de sociologue sa particularité, puisque être sociologue, c'est être aussi opticien. Et je voulais qu'on revienne sur cette métaphore, notamment à partir d'une date dans votre trajectoire, c'est 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, l'objet d'un retour de votre côté sur le code napoléonien.
Oui, vous avez tout à fait raison de repartir sur cette métaphore de l'opticien. Donc, comme je vous le disais hier, j'ai choisi d'être opticienne parce que je ne voulais pas être des sociologues dévoileurs. Je ne voulais pas être de ceux qui écartent le rideau de la réalité pour nous dévoiler la machinerie des déterminations qui nous agitent sans que nous le sachions. J'ai l'idée que mon travail, c'est de décrire ce qui est sous nos yeux et que on ne voit pas. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, première façon d'être opticien, eh bien, c'est de venir très près des réalités, de façon à ne pas reproduire les préjugés, les prénotions, aller au plus près de l'expérience. Et ça, c'est l'enquête. Aller au plus près de l'expérience des justiciables d'un divorce, de l'expérience des beaux-pères, des belles-mères, etc. On va faire un zoom avant, si vous voulez, pour traverser les idées toutes faites qu'on a déjà et se confronter à une réalité vécue, racontée par les personnes concernées. Mais effectivement, quand on fait ça, on se rend compte que ça ne suffit pas. Que l'idée que j'avais pour faire de la bonne sociologie, il faut faire des super enquêtes de terrain avec une excellente méthodologie et on sera une bonne sociologue. En fait, en faisant ça, on se rend compte très vite qu'on n'a fait que la moitié du chemin et la moitié de son travail d'opticien. L'autre moitié, ça va consister à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à s'éloigner toujours des préjugés, des prénotions de notre époque, hein, mais en faisant au contraire un zoom arrière pour nous regarder depuis le plus loin possible. Et donc, le travail de l'opticien, ça peut être justement non seulement le microscope, on va dire, mais le macroscope ou le télescope, une façon de nous regarder de loin, un regard éloigné, un regard par-dessus, pour arriver à une certaine généralité ou se défaire des généralités qu'on a déjà. Et effectivement, 1989, c'était pour moi justement un alignement des étoiles, il faut croire. Ça faisait simplement 4 ans que j'étais, je suis entrée au CNRS en 85, oui, 4 ans que j'étais entrée au CNRS. Et voilà cette date de 89, bicentenaire de la Révolution française, à un moment où moi, qui avais assez travaillé sur le droit, j'avais une curiosité immense sur notre histoire. J'avais appris à me rendre compte des changements juridiques, à percevoir plus ou moins clairement que nous étions les héritiers d'un code Napoléon qui était quand même incroyablement oppressif pour les femmes, puissance maritale, puissance paternelle, incapacité de la femme mariée, ça allait vraiment très loin dans une vision inégalitaire et hiérarchique. Et donc j'avais, comme tout le monde, une curiosité pour ce qui avait bien pu se passer au moment de la Révolution française et qui était au fond, pour la citoyenne que je suis, j'oublie là la sociologue un instant, mais on est toujours un peu les deux, la citoyenne féministe dont je vous ai parlé aussi, et comme toutes les femmes de ma génération, c'était quand même un objet de scandale. Comment est-ce qu'il était possible que nos sociétés, qui avaient voulu s'émanciper de l'oppression, qui avaient affirmé la déclaration des droits humains, qui avaient affirmé les individus naissent libres et égaux en droit, et en même temps priver la moitié de l'humanité du droit de vote, et organiser la mise sous tutelle, on va dire, de l'épouse et de la mère. Donc là, il y avait un scandale, je me suis saisie de cette, un sentiment de scandale, de cette occasion du bicentenaire pour me dire c'est une occasion en or pour aller voir ce qui s'est passé, avec toujours la même idée. Il a dû se passer quelque chose, non pas simplement dans l'image qu'on avait des hommes et des femmes, mais autour de cette question de la famille. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un peu ma particularité, aborder la question des sexes à travers cette question des liens de parenté, des liens familiaux, des liens de couple, des liens de filiation, etc. Et donc, j'ai fait une proposition qui était d'organiser pendant un an un séminaire d'une journée avec tous les spécialistes de cette période. Alors je l'ai proposé au Centre Pompidou parce que c'était organisé avec mon ami Roger Rottmann qui à ce moment-là s'occupait des débats au Centre Pompidou, ainsi qu'avec Christian Biais qui est un universitaire qui travaillait déjà un livre sur le bicentenaire et qui trouvait intéressant de s'occuper de ces questions de droit et littérature pour sa part. Et donc on a organisé ce travail avec l'idée tout simplement de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait, c'est-à-dire de prendre une période 1787, édit de tolérance sur le mariage des protestants, 1804, code civil, comme un tout. Et c'est une période très courte, 17 ans, mais qui était toujours coupée. Les historiens de la Révolution s'occupent de la Révolution, du coup ils ne parlent pas du code civil. Les civilistes commencent avec le code civil, ils ne connaissent pas le droit antérieur. Voyez, et donc, au contraire, rassembler les gens autour de comprendre cette période. Et donc, un travail extraordinaire pendant une année, avec des historiens, avec des philosophes, des juristes, etc., de toutes les disciplines, et pour essayer de voir ce qui s'était passé sur les questions des sexes et de la famille. Et effectivement, pour moi, ça a été une vraie découverte, et j'ai l'impression d'avoir trouvé, on va dire, la réponse à la question que je me posais, mais pourquoi ce scandale ?
Donc c'est par le décloisonnement des disciplines que vous parvenez à relancer votre propre travail de sociologue ?
Oui, certainement le décloisonnement des disciplines, mais surtout le fait d'aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on en avait une idée, justement, si vous voulez, dans le mouvement féministe dont je faisais partie aussi. On disait, c'est très simple, qu'est-ce qui a pu se passer ? On le sait ce qui s'est passé. Il y a eu des images fausses sur la nature de la femme, la nature de l'homme. Et à partir de ces stéréotypes de genre, on a établi des inégalités dans les droits. Eh bien, c'est ça que j'ai été mettre à l'épreuve. Si je veux résumer en quelques mots l'apport de ce très grand séminaire, c'est tout simplement que j'ai découvert que ce qui s'était passé, c'était le contraire de ce qu'on croit. C'est-à-dire, ce qu'on croit, c'est on a des clichés sur le masculin, sur le féminin, sur la nature de l'homme, sur la nature de la femme. Et comme on a des clichés, on adapte, on va dire, ce qu'on permet aux uns et aux autres à partir de ces clichés. Une femme est censée être altruiste, un homme est censé être plus intelligent, etc. Et c'est quelque chose qui est très présent. Or, ce qu'on découvre, tout simplement, c'est que ça n'est pas ça qui s'est passé. C'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on étudie précisément les débats de cette époque, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas pu changer quelque chose dans la famille. Et c'est parce qu'on n'a pas pu changer quelque chose dans la famille qu'on a trouvé des justifications à cette incapacité. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas pu changer ? Pour l'expliquer, il faut revenir tout simplement à qu'est-ce qu'a fait la Révolution. La Révolution française, mais les autres révolutions démocratiques aussi, la Révolution anglaise, la Révolution américaine. On passe d'une organisation de la société qu'on appelle holiste, c'est-à-dire la société, c'est comme un tout, c'est comme un organisme, et ce tout, chacun n'est pas censé y occuper la même place. Un peu comme dans la métaphore d'un organier, si vous voulez, pour que le tout de la société fonctionne, il faut qu'il ait une tête, capoute, la tête, le chef. Il faut qu'elle ait des bras, il faut qu'elle ait des jambes, il y a une place pour chacun. Ces places ne sont pas semblables, elles ne sont pas égales, mais elles concourent toutes à la valeur du tout de la société. Et c'était toutes les sociétés traditionnelles sont des sociétés holistes qui fonctionnent sur un principe qui est la hiérarchie. La hiérarchie, ça n'est pas l'inégalité, c'est qu'il y a des différences dans les valeurs qu'on va attribuer à chacune des positions. Et donc la hiérarchie, c'est comment on va lier des valeurs différentes. L'englobement de la valeur contraire. Il y a une valeur, par exemple, attribuée au fait de s'occuper de la famille. Il y a une valeur attribuée au fait de faire la guerre. Eh bien, ces deux valeurs-là, il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir s'occuper des enfants. Ces deux valeurs coexistent parce que il y en a une qui va être englobée dans l'autre. Et la valeur englobante, très souvent, c'est la valeur masculine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rompu avec la hiérarchie et le holisme, on va dire, en général dans la société. Et on va dire, maintenant, nous sommes en fait des ensembles d'individus et chacun doit librement pouvoir mener sa vie. Il n'est plus assigné par la naissance à telle fonction. Mais il y a un domaine où on n'a pas pu faire cette révolution. On l'a pensé impensable, vraiment. C'est le domaine de la famille. Et quand on lit tous les débats de cette période, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, que ça soit dans les mythes des philosophes sur le contrat social, le passage de l'état de nature à l'état de société, que ce soit dans les débats politiques de la période, il y a toujours l'idée, avant de faire une société entre individus qui veulent s'associer, il y a déjà une première société qui, elle, on ne peut pas y échapper parce qu'elle est dictée par la nature humaine elle-même, et c'est la famille. Et la famille, c'est la complémentarité hiérarchique du mâle, de la femelle, les petits humains, et ça, c'est une donnée de notre nature humaine. Et donc, essayer d'imaginer une autre organisation, à l'époque, paraissait aussi infaisable que changer les hommes en femmes, les femmes en hommes. Et d'ailleurs, on a montré qu'il y avait beaucoup de craintes, d'ailleurs, d'effacement de la différence des sexes, etc. Et donc, les stéréotypes, ils viennent justifier cette donnée d'une famille qui ne peut être que un tout hiérarchique, hein, le père, la mère, les enfants. Ils viennent la justifier et c'est pas les stéréotypes qui créent le problème, c'est plutôt la difficulté à imaginer une autre forme d'organisation du lien familial qui entraîne ces justifications par le fait que l'homme serait naturellement plus capable de diriger, que la femme serait naturellement plus soumise à la sollicitude. Toutes choses qui, en fait, sont issues non pas de la nature, mais plutôt d'un partage des tâches entre hommes et femmes, ou entre père et mère, entre masculin et féminin, qui est hérité des siècles antérieurs et qu'on n'a pas réussi à remettre en cause. Donc je dirais que c'est ça la découverte pour moi, c'est que ce qui s'est passé à la Révolution et qui explique la difficulté dans laquelle on est dans nos sociétés occidentales qui se veulent des sociétés des droits de l'homme, qui s'affichent comme des sociétés individualistes, c'est-à-dire où la valeur c'est l'idéal de l'individu autonome, c'est que on y a conservé une vision holiste et hiérarchique de la famille qui a duré en fait jusqu'aux années 70 et qui a incarné le code Napoléon. Et donc c'est la hiérarchie, c'est pas l'inégalité seulement, hein. La hiérarchie, c'est l'englobement de la valeur contraire, hein, et qui explique par exemple que pourquoi seuls les hommes votent et pas les femmes. C'est pas parce qu'on a mis les femmes ici, les hommes là, qu'on les a comparés et qu'on a dit eux ils sont capables, elles sont pas capables. C'est parce que l'homme qui vote, il vote en tant que chef de famille. Il représente toute sa famille. Il vote même au début pour sa femme, ses enfants et ses domestiques. Hein, ensuite, il vote uniquement pour sa femme et ses enfants. Donc, on est d'abord dans une famille et on est ensuite un individu. Et donc, on conserve cette vision hiérarchique, mais en même temps, on dit « Ah, mais c'est pas une institution, c'est la nature qui veut ça. » Et là, on est en difficulté parce qu'en fait, il faut jamais oublier que la révolution, c'est quand même, au contraire, un effort énorme de création d'institutions. Le mariage civil, le mariage n'avait jamais été que religieux. On crée le mariage civil, et donc c'est une énorme création institutionnelle, et on dit « Mais non, le mariage, c'est la seule institution naturelle. » C'est la seule société naturelle. Donc, on a une difficulté avec notre propre histoire.
Et cette mise en perspective, disons, du statut de la famille, offerte par l'histoire, la réflexion sur ce qui se passe justement dans cette période de 1787-1804, elle va se trouver doublée chez vous, dans votre trajectoire, en 97, lorsque vous rentrez à l'école des études en sciences sociales, par l'apport, l'enrichissement des sciences sociales, enfin de l'anthropologie en particulier.
Oui, parce que quand je me rends compte, donc, le passage des sociétés traditionnelles dites holistes, hein, comme des organismes, des touts, dont chacun est une partie. On n'est pas passé à une société individualiste, mais on a eu une sorte de combiné des deux, avec un holisme sexué et une hiérarchie des sexes qui était uniquement dans ce domaine-là. Vous voyez, on a gardé ce principe, un monde masculin, l'art, la science, la politique, la guerre, un monde féminin, la maison, les soins aux enfants, les soins aux personnes âgées, l'influence, etc. Complémentarité des rôles et chaque fois hiérarchie des rôles. C'est sûr que la question qui est posée, c'est comment se fait-il qu'on est présenté comme naturel quelque chose qui n'a rien de naturel, qui était institutionnel. Et donc ça m'a amené à m'intéresser effectivement de plus en plus à l'anthropologie. Donc vous voyez, j'étais partie pour être sociologue et m'occuper que de l'ici et maintenant. Je me suis intéressée à l'histoire et l'histoire m'a amené à me dire mais au fond la sociologie n'aurait peut-être jamais dû se couper de l'anthropologie. Parce que c'est une seule et même discipline, en fait. C'est l'étude des sociétés, du lien social. C'est quand même dommage qu'on ait maintenant les sociologues qui s'occupent de nous et les anthropologues qui s'occupent des autres. Enfin, c'est absurde. Ça nous empêche d'avoir cette distance par rapport à nous-mêmes. Et donc, effectivement, la chance pour moi, c'était que cet intérêt nouveau pour l'anthropologie, qui m'a amené à commencer à lire par moi-même, en particulier essayer de réfléchir autour de ces questions, holisme, individualisme, hiérarchie, Marcel Mauss. Je commence à lire Marcel Mauss, à découvrir un petit peu qui il est, et j'arrive à l'école des hautes études, où la chance, on va dire, dans cette école, c'est la coexistence très proche des disciplines. C'est-à-dire, c'est pas simplement comme dans une université où il y a le département d'anthropologie, le département de sociologie, qui sont dans des bâtiments différents. À l'école des hautes études, l'anthropologue, c'est votre voisin de couloir. On se rencontre, on se croise. Il y a une sorte d'échange spontané qui fait qu'on rencontre très souvent des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. Et c'est très, très fructueux. Et moi, j'ai eu la chance, donc, d'arriver à un moment où, autour de Vincent Descombes et de son travail sur les institutions du sens, autour des anthropologues héritiers de Louis Dumont et de Marcel, qui était lui-même l'élève de Mauss, autour de la question des institutions, eh bien, il y avait tout un débat. Et effectivement, ça a été pour moi découvrir que j'avais toujours eu, en fait, moi qui, vous voyez, je vous l'ai dit, je suis un peu devenue sociologue autodidacte. J'avais pas de maître en sociologie. Je me suis formée à la pratique de l'enquête. J'ai appris le droit par moi-même. Je suis une sociologue autodidacte. Mais j'ai découvert à partir de là qu'en fait, je pouvais me remettre à faire des études, parce que j'avais bien des maîtres, en fait, mais ils étaient de l'école française de sociologie, d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Je me sentais beaucoup mieux dans la façon dont on liait sociologie, anthropologie, histoire dans cette période-là. Et surtout Marcel Mauss, qui sur le sujet qui m'importait, la question de la différence masculin-féminin, de la place des femmes, etc., avait été le pionnier que j'ignorais.
Mais il avait été oublié.
Oui, bien sûr, complètement oublié. Peut-être l'hommage un peu venimeux que lui donne Lévi-Strauss quand il fait une préface à un certain nombre de ses textes avait contribué à le renvoyer un peu aux oubliettes. Enfin, maintenant, je crois qu'on est complètement revenu de cette critique. On a perçu l'extraordinaire richesse de la façon dont Mauss a infléchi, enrichi Durkheim. C'était le neveu de Durkheim, vous savez. Oui. Et surtout, sur mon sujet, je pense qu'on peut dire que Mauss est le premier à avoir pris conscience de l'immensité de ce sujet de la distinction masculin-féminin. En 1931, il fait une conférence sur les sociétés qu'on appelle polysegmentaires, des sociétés sans État. Et dans cette conférence, il a cette phrase que je peux vous citer par cœur. « La division par sexe est une division fondamentale qui a grevé de son poids toutes les sociétés à un degré que nous ne soupçonnons pas. On peut dire à nos étudiants, surtout à celles et ceux, vous voyez, il y avait des étudiantes, qui pourraient faire des observations sur le terrain, que nous n'avons fait que la sociologie des hommes et non pas la sociologie des femmes, ni des deux sexes. » Alors, j'avoue que le choc est assez grand quand on s'aperçoit qu'en 1931, Mauss disait ça, et d'ailleurs il a eu, vous le savez, des étudiantes célèbres, Germaine Tillon, Denise Paulme. C'était un féministe, Marcel Mauss, déjà de son temps. Et donc, ce qui est très frappant dans ce qu'il dit, qui est pour moi une sorte de révélation, là encore, c'est qu'il parle de division par sexe, alors que ça fait longtemps qu'avec d'autres, on cherchait à nommer les choses. Donc on avait un terme qui était celui que tout le monde utilisait, la différence des sexes, qu'on n'entendait jamais simplement comme une différence biologique, mais comme une différence sociale. Hein. Mais c'était notre terme, la différence des sexes, en tant qu'elle est une différenciation sociale. Et lui, il parle de division par sexe, et il dit que cette division, elle est à la fois fondamentale, et elle grève de son poids les sociétés. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est fondamental, c'est-à-dire on ne peut pas s'en passer. Ah bon ? Et pourquoi on ne peut pas s'en passer ? Eh bien, ce qu'il montre, si vous voulez, c'est que dans toutes les sociétés traditionnelles, il n'y a pas d'exception à ça. Il n'y en a aucune d'exception à ça. On distingue des rôles masculins et féminins, des statuts masculins et féminins. On fait une distinction, une division masculin-féminin. Il n'y a pas le masculin en soi, le féminin en soi. Il y a la division des deux pour les relier. Pourquoi on fait ça ? Des rôles, des statuts, des fonctions masculines et féminines. Parce que, tout simplement, la vie de l'un et l'autre sexe ne s'organise pas naturellement. Voilà. La relation des sexes ne s'organise pas naturellement chez les humains. Elle passe par le fait d'endosser des manières d'agir à la manière des femmes, à la manière des hommes. Et donc, la division par sexe, c'est ça qui est important, c'est une règle. C'est quelque chose qu'on doit faire. Et c'est cette dimension de la règle, c'est quelque chose qu'on doit faire, qui est très visible dans les sociétés traditionnelles. On dit, il faut fabriquer, on va dire, des hommes et des femmes, en leur faisant endosser des statuts, on dirait, de genre, aujourd'hui, masculin, féminin, en leur attribuant des rôles, des fonctions complémentaires et hiérarchiques. Mais parce que la vie en commun de l'un et l'autre sexe ne s'organise pas naturellement. Il faut l'instituer en apprenant à agir en tant qu'eux. Et par où ça passe, on agit en tant qu'eux, ça se distribue en je ne sais pas combien de statuts. On va agir en tant que père, en tant que mère, donc il y a tous les termes de la parenté, par exemple, etc. Donc, il explique cela. Il y a des statuts masculins et féminins, il y a des rôles masculins et féminins, c'est une règle. On y obéit, on va dire, en se référant à des droits, des devoirs, des interdits, des attentes, des manières d'agir en tant qu'eux, qui n'ont pas du tout leur équivalent chez les animaux. Les animaux, ils agissent en fonction de causes, de régularités, mais pas avec des raisons et des règles. Et c'est ça l'énorme différence. Et donc, exactement à l'inverse de ce qu'on a raconté, on va dire, vous voyez, dans notre mythologie moderne, où on part au contraire d'une naturalité de la famille, etc. Donc c'est une règle impérative qui change dans ses modalités, bien sûr, selon les sociétés. Il y a plein de systèmes de parenté, plein de rôles, mais il y a toujours cette distinction relation, et donc qui en même temps est fondamentale et qui grève de son poids. Pourquoi elle grève de son poids ? Ben justement, parce qu'elle contribue toujours à entériner un principe hiérarchique entre les sexes, principe hiérarchique qui est complexe, hein, puisque la hiérarchie, je vous l'ai dit, c'est pas l'inégalité, c'est l'englobement de la valeur contraire, l'englobement de la valeur du... Il y a une vraie valeur du féminin dans les sociétés traditionnelles, mais elle est en général englobée dans la valeur du masculin, qui est la valeur plus englobante. Et donc, c'est pour ça que ça grève de son poids, et que le socialiste, qui est aussi Marcel Mauss, et le progressiste et le féministe qu'il est, souhaite que, justement, on arrive à sortir de cette hiérarchie, mais en n'ayant pas la naïveté, disons, d'imaginer que désormais, la vie en commun de l'un et l'autre sexe va s'organiser naturellement. Ça, c'est une naïveté.
C'est extraordinaire. Donc, il y avait une pensée en dépôt qui était extrêmement novatrice et oui. Qui va donner lieu. Alors on passera avec votre livre de 2007, La distinction de sexe, donc de la notion de division des sexes que vous trouvez chez Mauss à la notion de distinction. Qu'est-ce qu'elle produit comme variation, cette notion de distinction ?
Oui, parce que la notion de distinction de sexe, elle ne vient pas de moi. C'est-à-dire que ce que je découvre aussi, en le disant rapidement, en arrivant à l'école des hautes études, c'est à la fois donc toute une élaboration théorique sur ce que c'est que le social, hein, ce que c'est qu'un individu social. Parce qu'on disait toujours le genre, c'est social, mais qu'est-ce que ça voulait dire, social ? Ça veut dire la capacité à agir à la manière humaine en se référant à des règles et pas simplement à des régularités. Donc la distance à soi du rôle, de le statut. Mais je découvre aussi des tas d'anthropologues qui sont dans l'héritage maussien. Et c'est ça qui est extraordinaire pour moi, puisque Je viens de la sociologie, je travaille sur l'ici et maintenant des sociétés, je suis dans les derniers développements des familles recomposées, du divorce, etc. Et donc, spontanément, je pourrais être plus proche de ce qu'on appelle les gender studies américaines, qui déjà se développent et qui vont avoir une influence énorme par ailleurs. Et je me rends compte que ces gender studies, dont l'idée c'est d'aller au plus près, on va dire, de la militance au contraire. Les studies, en général, ça consiste à essayer que les sciences sociales se rapprochent de l'expérience des personnes concernées, et donc les gender studies de l'expérience du féminisme, par exemple. Au lieu de théoriser la distance entre les mouvements politiques et les sciences sociales, c'est au contraire le rapprochement de ces expériences vécues, etc. Et donc, ce que je découvre avec les anthropologues, c'est que il n'y a pas que des studies. Il y a aussi, très traditionnellement, des anthropologues qui ont continué à aller très loin de chez nous, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Amazonie, dans le nord sibérien, en Inde, en Afrique, et qui ont continué à travailler l'anthropologie telle que l'enseignait Mauss, mais en intégrant eux aussi l'intérêt pour la question masculin-féminin et la question des sexes. On est cette fois maintenant dans les années 80-90, il y a un énorme développement des travaux. Le problème, c'est que jamais le lien n'est fait, c'est ça que je veux dire, entre ce qu'apportent ces travaux anthropologiques, qui vont aller étudier la part des femmes dans les initiations masculines en Papouasie, par exemple, comme ma collègue Pascale Bonnemère, qui vont aller étudier la façon dont on distingue garçons et filles chez les Achuars, comme etc. Donc, il n'y a jamais de lien qui est fait entre les apports de ces travaux et la théorie générale du genre. Et c'est ça qui, pour moi, va être extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je découvre un trésor de travaux, un trésor à la fois en soi, pour ce que ça m'apprend de l'expérience de l'humain, parce que, en fait, ces sociétés traditionnelles sont extraordinairement riches et complexes dans la façon dont elles pensent la distinction masculin-féminin. Faut pas croire que c'est les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, comme ça. Leurs traditions vont, les hommes qui vivent à la manière des femmes, la complexité de la distinction masculin-féminin. Avec une distinction masculin-féminin, on fait plein de choses. On fait des relations de même sexe, on fait des relations de sexe opposé, on fait des relations de sexe indifférencié, on fait des relations de sexe combiné. Il y a tout ça dans ces sociétés où très souvent on passe d'ailleurs du masculin au féminin. Il y a beaucoup des partages de rôles, des jeux sur les rôles et tout ça. Et donc moi j'ai bénéficié de cet apport et j'ai essayé de le rapatrier, on va dire, vers une réflexion qui permette de construire une autre approche du genre que celle qui avait lieu, qui était l'approche dominante, on va dire, très identitaire. Pour dire le genre, c'est pas une propriété des personnes ou du moi, c'est une manière d'agir en référence à une dramaturgie sociale.
Irène Théry, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Irène Théry. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Claude Niort, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.